France Culture. Avoir raison avec Louise Weiss, Xavier Mauduit.
Louise Weiss, la vie comme un voyage. En 1976, Louise Weiss a 83 ans. Elle vient d'achever le sixième volume de ses Mémoires d'une Européenne, volume intitulé « L'illumination humaine ».
Je demande au lecteur de me suivre en Amérique centrale, en Alaska, dans les Aloïsiennes, et puis le Japon que j'ai vu en train de digérer le message démocratique que le général MacArthur le forçait à avaler. Et puis alors, j'ai vu la Chine d'avant Mao, et puis la Chine d'après Mao, et puis l'Indochine, et puis la Russie, où j'ai eu l'extraordinaire chance journalistique et en même temps humaine d'approcher les grands héros de la Révolution. J'ai tout de même connu Lénine, qui m'a donné son portrait. Je me suis liée d'amitié avec Trotsky. J'ai aussi été dans toute l'Afrique, jusqu'à la pointe de l'Afrique et à l'île Maurice. Enfin, j'ai essayé de vivre avec les gens.
Evelyne Vinclair, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes l'autrice de Louise Weiss, une journaliste voyageuse au cœur de la construction européenne. Voyageuse, c'est peu de le dire.
Oui, parce que Louise Weiss a voyagé très tôt, premièrement. Deuxièmement, elle a voyagé toute sa vie. Son dernier voyage, elle l'a effectué à l'âge de 89 ans, au Liban. Et c'est une femme de la frontière, comme l'ont dit d'autres avant moi. Elle est d'origine alsacienne. Donc c'est une région transfrontalière. Elle vient d'une famille dont son père est protestant, sa mère est juive. Les racines familiales sont là aussi en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne. Très tôt, elle a voyagé. Sa mère l'a envoyée à Oxford pour parfaire son anglais. Et elle a rejoint son père aussi à l'âge de 18 ans, qui était inspecteur des mines, ingénieur d'abord puis inspecteur des mines, en Galice, où elle a parcouru la région à cheval. Et ce qui est intéressant dans le rapport à l'expérience viatique, c'est que très tôt, très vite, elle a tenu des journaux de voyage, des carnets de voyage. C'est une polygraphe, elle a écrit toute sa vie. Et l'idée même du voyage, c'est-à-dire d'un autre rapport à l'altérité, que ce soit géographiquement, humainement, puisque dans l'extrait que vous avez diffusé, elle dit qu'elle aime être proche des gens, ce qui est vrai et parfois ce qui n'est pas vrai, ça dépend des gens et des territoires parcourus. Mais voilà, ça commence très tôt, effectivement.
Ça commence très tôt avec cette jeune fille, nous sommes au tout début du XXe siècle, qui voyage. Elle voyage dans quel environnement? Nous sommes ici avec un voyage de la bonne société, des jeunes filles de la bonne société?
Non, parce que d'abord, elle a passé l'agrégation à 21 ans, mais elle a très vite refusé d'enseigner parce qu'elle estimait que les émoluments n'étaient pas à la hauteur de ce travail et elle a choisi le journalisme. Alors, on peut diviser ces voyages, si vous voulez, chronologiquement en deux périodes. On peut parler des voyages de jeunesse avant la Première Guerre mondiale et même avant les années 30, et des voyages de la maturité, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Et elle voyage seule en début de période, lorsqu'elle part en Tchécoslovaquie en 1919, et lorsqu'elle part, ce qu'elle appelait son premier voyage professionnel, on pourra peut-être en reparler, c'est-à-dire que c'est sa manière à elle d'envisager le journalisme, et son voyage en Russie, ce que l'historienne Sophie Queret appelle le laboratoire du communisme, en 1921. Donc là, elle part seule, mais alors seule, c'est-à-dire tout de même, elle prépare son voyage en amont, avec des réseaux. Elle rencontre également des compatriotes, que ce soit en Tchécoslovaquie ou en Russie. Et dans la deuxième partie du XXe siècle, elle part cette fois-ci avec un réalisateur comme Georges Bourdelon, qui l'a accompagné notamment en Syrie, mais également en Inde, et qui lui d'ailleurs loue son rapport à l'altérité dans le cadre de ses voyages, ce qui peut être parfois aussi discutable dans l'un ou l'autre exemple que j'ai en tête. Et dans un autre voyage, au Mexique, elle est accompagnée du fils d'un couple de diplomates qui est en train de préparer sa thèse sur la paysannerie mexicaine et qui lui sert de guide et d'interprète.
Voyager, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et selon les moments, partir en Russie en 1921, c'est une aventure. Elle en est où de son rapport au journalisme à ce moment-là?
Alors effectivement, c'est une aventure. Alors elle n'a pas appelé son livre comme, ses écrits comme Madeleine Pelletier, mon voyage aventureux en Russie communiste. Mais elle part en Russie d'abord parce que elle veut être là où les choses se passent. Et évidemment, en 1917, c'est la révolution bolchevique, et c'est un bouleversement de l'histoire. Ça, c'est sa première motivation. Sa deuxième motivation, ce sont les affamés de la Volga. Il faut dire que la Croix-Rouge internationale a accepté une antenne de la Croix-Rouge russe, pas encore soviétique. Pour précision, la France reconnaît la République des Soviets officiellement en 1924. C'est là qu'elle installe une ambassade à Moscou. Voilà, c'est pour ça que je mobilise encore le terme Russie en parlant de 1921. Mais, ou Russie rouge, entre guillemets. Mais voilà, elle veut voir ce qui se passe. C'est l'histoire qui avance ou qui recule, selon les acteurs et les actrices qui l'envisagent. Et elle est soucieuse de ce qui se passe là-bas au plan humanitaire. Elle parlait des gens dans l'extrait que vous avez diffusé. Elle était aussi infirmière pendant la Première Guerre mondiale. En tous les cas, elle faisait partie d'une association caritative de sa grand-tante Sophie Wallerstein. Donc il y a tout de même ce rapport à l'autre humain qui est important chez elle. Alors vous parlez d'aventure. Effectivement, on peut parler d'aventure parce que, si vous voulez, cette période entre 1920, disons 21 et 1924, c'est une coupure totale au plan diplomatique et des relations internationales entre la France et la Russie. Et évidemment, d'autres femmes ont voyagé en Russie avant elle, mais dans un contexte où les relations étaient basées sur les affinités électives entre des voyageuses et une aristocratie russe. Voilà. Plus tard, on pense à André Violis, qui est une autre grande reporter, mais qui a voyagé dans les années 30, à une époque où les voyages étaient beaucoup plus encadrés, pour des raisons idéologiques évidemment, au point d'ailleurs que le régime tentait de dissuader les voyageurs et voyageuses individuelles de louer une chambre d'hôtel individuelle, voilà. Alors que lorsque Louise Weiss y va, elle y va seule. Alors, Élie-Joseph Bois, qui est le propriétaire de la revue L'Europe Nouvelle, à qui elle demande un statut de grand reporter, parce qu'elle prépare en amont ce voyage de manière extrêmement précise, elle met 18 mois à voir son visa, et Élie-Joseph Bois lui dit « Mais vous serez victime de la famine et vous mourrez du typhus. » Alors, typhus, effectivement, sévissait en Russie, mais il l'entendait évidemment également au sens métaphorique, le typhus étant le danger de la contagion du communisme, vous voyez.
L'Europe Nouvelle, revue hebdomadaire des questions extérieures, économiques et littéraires. C'est cette revue fondée par Louise Weiss. Alors, comment ça se passe d'ailleurs, son rapport avec la direction en chef? Parce que ici, on sent bien qu'elle est envoyée d'une revue qu'elle a elle-même fondée.
Oui. Alors, en fait, c'est Filouze, Hyacinthe Filouze, qui lui a proposé de fonder cette revue avec lui en 1918. Elle y collabore de 1918 à 1920. Et il y a une rupture en 1919, à son retour de son voyage en Tchécoslovaquie. Et à ce moment-là, en 1919, elle va travailler pour Le Petit Parisien, qui est un journal à très grand tirage, donc avec une réception effective notable. Et en 1920, elle revient finalement à l'Europe Nouvelle. Et là, elle dirige l'Europe Nouvelle. Alors, les mauvaises langues diront oui. Et son père était conseil d'administration, certes. Mais ça n'enlève rien à ses qualités de journaliste, puis de grand reporter. Et donc, c'est une revue, alors qui se présente ce sont deux colonnes sur 54 pages. Et c'est une revue assez ambitieuse parce que, alors évidemment, elle traite des questions de politique internationale. Nous sommes dans un contexte de l'après-Première Guerre mondiale, avec les traités de Saint-Germain-en-Laye en 1919 et de Trianon en 1920, qui réorganisent territorialement le continent européen. Et nous sommes dans ce que Louise Weiss appelle la débalkanisation de l'Europe, c'est-à-dire la démocratisation de l'Europe, avec notamment le démembrement de l'Empire austro-hongrois et la naissance justement de nouvelles démocraties, encore fragiles certes, mais réelles.
Avec dans cette histoire-là une volonté de voyage. Le journalisme, bien sûr, c'en est une. Qu'est-ce qu'elle cherche dans ses voyages? Elle veut rapporter de l'information que elle seule peut donner, parce que vous l'avez bien dit, hein, cette Russie de 1921, on est juste avant la naissance de l'URSS, c'est un monde encore fermé.
Exactement. Alors, il y a aussi une raison peut-être un peu plus personnelle qui me semble intéressante, c'est qu'elle... alors, évidemment, elle le dit dans ses mémoires, qu'il faut lire avec un intérêt, certes, ce que je fais, mais avec du recul et une analyse critique. Il faudrait... J'attends une publication des mémoires avec une édition critique, mais enfin, voilà. Et elle y raconte qu'elle a un désir continu de partance. Je trouvais cette expression très jolie parce que ses relations avec son père sont très tendues. Alors, elle vient quand même d'une famille de la bourgeoisie républicaine, voilà, fortunée. Et ma foi, comme toutes les femmes de cette époque, son mode de vie est tout de même soumis au code de Napoléon de 1804. Et c'est une femme, une jeune fille déjà, qui veut s'émanciper. Elle veut faire ce qu'elle a envie de faire. Elle est profondément libre. S'il y a un mot qui voilà, deux, allez, choisissons deux mots, ce serait libre et déterminée, ou pugnace même. Et donc, il y a ce désir de partance qui continue, et puis le fait de voir l'histoire en marche et d'en rendre compte. Alors, Fred Kupferman, historien, parle de trilogie du voir, du savoir et du comprendre. J'aime beaucoup cette expression, j'y rajouterais de transmettre ce qu'elle veut faire avec l'Europe nouvelle, mais elle le fera plus tard aussi avec la nouvelle école de la paix, qui est un peu le pendant de l'Europe nouvelle qui est créée en 1930, avec cette idée de transmettre ce qui se passe, que ce soit d'ailleurs pour attester de la véracité de faits qu'elle a observés, comme en Russie, mais aussi pour travailler à une Europe pacifiée après la Première Guerre mondiale.
Avec la nouvelle école de la paix, Louise Weiss donne des conférences. Dans le même temps, cette transmission, elle est là par les conférences parce que cette aventure, on peut le même mettre au pluriel, ces aventures, elle souhaite les raconter.
Madame Louise Weiss vient d'effectuer un voyage à travers le Grand Nord. Voyage qui d'ailleurs est presque une exploration. Mais si vous le voulez, madame, nous allons refaire le plan de votre voyage et partir avec vous sur cette terre que peu de Français connaissent.
Imaginez que je suis au pied des montagnes rocheuses, en Alberta, l'une des provinces du Canada les plus riches en blé, en charbon, en fourrure, en bois, et dont le pétrole jaillit plus abondant tous les jours.
Mais quelles ont été exactement vos étapes?
Eh bien, je me suis d'abord arrêtée à Fort Saint-Jean, où j'ai retrouvé les fleurs de lys du vieil établissement fondé par les explorateurs, nos ancêtres, puis à Fort Nelson, le centre des trappeurs de castors, à Whitehorse également, sur le Yukon, aboutissement d'un prodigieux pipeline, construit à toute vitesse à travers les forêts désertes pour amener pendant la guerre au Pacifique le pétrole découvert à Norman Wells, sur le fleuve Mackenzie, en deçà du cercle polaire.
Eh bien, je crois qu'il sera difficile après cela de dire que les Français, et surtout les Françaises, ne savent pas voyager.
Le Yukon, le pipeline, c'est charmant d'entendre Louise Weiss raconter. Nous étions en 1946, après un voyage dans le Grand Nord. Elle donne ces conférences-là. Evelyne Vinclair, elle raconte bien. Et c'est très important de le souligner, parce que voyager, c'est une chose, raconter le voyage, en est une autre.
Tout à fait. C'est une formidable oratrice. Elle peut parler une heure debout, sans notes. Elle a beaucoup d'humour. Alors, ça se voit déjà dans ses écrits corollaires à ses voyages dans la première moitié du XXe siècle, dans son art du portrait. Mais elle est très, très à l'aise. Et aussi dans son rapport aux populations autochtones. Même si parfois, son regard peut être condescendant. Alors, dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est quelque chose que l'on retrouve de manière récurrente. La description des paysages, les ressources, les infrastructures nouvelles. Mais selon les destinations, ce peut être aussi le regard d'une Européenne que l'on pourrait qualifier d'européocentrée, par exemple, lorsqu'elle est au Kenya et qu'elle tourne des reportages, comme le reportage Pastorales africaines. Elle tente de justifier à sa manière la colonisation de la Grande-Bretagne en disant que si la Grande-Bretagne ne renonce pas au Kenya, c'est pour éviter des rivalités tribales. Bon, c'est évidemment discutable. Au Mexique, elle parle de femmes dévêtues qui portent leurs enfants sur le dos avec leur, je cite, leur mamelle pendante. Donc, regard d'une femme, de femme à femme qui peut sembler surprenant. Alors qu'en Russie, elle montrait beaucoup d'empathie face aux femmes décharnées dans les bains municipaux de Moscou, alors que sévissait la famine. Donc, ce qui est intéressant quand on étudie ces agendas qui se trouvent au musée du Château des Rohan de Saverne, on voit qu'elle est en voyage tout le temps et elle écrit tout le temps. Et ces deux activités sont totalement imbriquées. Dans ses agendas, elle est encore en voyage, qu'elle prépare déjà le voyage suivant. Mais la description de paysages qu'elle traverse sont souvent empreintes de poésie aussi. Elle a un regard sur la beauté du monde, indépendamment de ce côté parfois condescendant ou que certains vont jusqu'à nommer colonialiste avec des guillemets, mais c'est aussi une femme de son temps. Et
oui, on peut aller jusqu'à raciste, hein, parce que c'est, quelque chose qu'on voit bien. Et vous avez raison, Évelyne Winkler, de le rappeler, c'est une femme de son temps, ce qui ne justifie absolument rien. Mais absolument rien, elle voyage quand même, et elle s'intéresse aux populations, parce que décrire les paysages, décrire les populations qu'elle rencontre, les plus modestes, et puis il y a les rencontres. Alors, pour le voyage en Russie, elle présente Lénine et Trotsky comme des petits potes. On va nuancer peut-être, et c'est ça qui est fascinant dans la manière qu'a Louise Weiss de présenter sa propre existence. C'est, mais c'est le travail de l'historienne aussi, prendre de la distance avec ce récit-là.
Absolument. Et de fait, elle n'a pas rencontré Lénine. Elle a demandé un portrait de Lénine qui lui a été transmis par un obscur employé d'un GAF, c'est-à-dire d'une administration russe. Mais elle a rencontré Trotsky, elle a rencontré le rédacteur en chef de la Pravda, et elle a rencontré Alexandra Kollontai, qui exerce des responsabilités politiques en Russie à ce moment-là, et dont elle fait un portrait absolument élogieux, et elle parle, je cite, d'une intensité de feu chez cette femme. Donc, outre la description physique au demeurant très rapide et qu'elle fait d'elle, elle parle de ses qualités en disant, on voit que c'est une femme qui, malgré son âge, est dans un combat, et on se demande si elle ne parle pas d'elle. Vous voyez, par effet de miroir, vous avez raison de dire qu'il faut vraiment prendre de la distanciation, parce que Louise Weiss, évidemment, dans l'écriture de ses mémoires, qui par définition sont un genre littéraire qui participe d'une écriture évidemment rétrospective, a tendance à parfois embellir les choses, à tel point qu'un article de Libération a d'ailleurs repris après sa mort en 83 le fait qu'elle ait rencontré Lénine, ce qui n'était pas le cas. Mais elle rencontre des compatriotes comme Madeleine Pelletier, par exemple. Alors là aussi, est-ce que c'est... Alors, je n'ai pas réussi à prouver que c'était vrai ou que c'était faux. Elle est la seule à en parler dans ses mémoires. Madeleine Pelletier n'en parle pas dans son livre, mais il se trouve qu'une réunion a lieu à Moscou et qu'elle raconte qu'elle rencontre la doctoresse Pelletier, Madeleine Pelletier, qui est une féministe socialiste donc qui a intégré la SFIO et qui est la première femme médecin diplômée de psychiatrie en France. C'est pas le même type de féminisme, c'est un féminisme très radical. Par exemple, Madeleine Pelletier est pour l'avortement. Louise Weiss écrit « L'être un embryon » en 1973. On n'est pas dans la même approche de la question de l'avortement. Cependant, elle raconte avec beaucoup d'humour qu'elle est interpellée dans cette réunion par Madeleine Pelletier, qui l'appelle camarade, et elle la rabroue en disant « Mais adressez-vous à moi comme à Paris, je ne suis pas votre camarade. » Alors on voit la grande bourgeoise un peu comme ça de droite, même si justement elle n'est pas que cela. C'est pour ça que c'est intéressant quand même de lire aussi ces articles et pas uniquement les mémoires. Et du coup, s'installe dans l'Assemblée une espèce de climat de suspicion. Comment ces deux femmes étrangères, capitalistes, se connaissaient avant notre réunion entre camarades? Que se passe-t-il? Voilà. Donc c'est une rencontre assez... inattendu finalement, que l'on retrouve dans les mémoires, si tant est qu'elle ait été exacte.
Voilà, il y a toujours ce doute, mais on va reprocher à personne de dire du bien de soi dans ses mémoires, parce que s'ils le font pas eux-mêmes, personne ne va le faire à leur place. Cette bonne guerre, dans cette histoire de Louise Weiss, dans sa pensée, dans sa réflexion, nous voyons bien que les voyages sont là, omniprésents, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle en fait sans arrêt. C'est quand même une force de pouvoir dire « j'y étais », que ce soit la Russie ou que ce soit ailleurs, parce qu'elle traverse le monde. « J'y étais, moi j'ai vu ».
C'est très intéressant parce que ça participe de la professionnalisation du journalisme qui a débuté dès l'entre-deux-guerres et du témoignage attestatoire, en fait. Il faut être présent sur les lieux, avoir vu pour légitimer une information. Louise Weiss n'a pas participé de la construction européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais de la construction technique de l'Europe, mais c'était une femme de terrain, absolument. elle s'intéressait à la situation, à tous les aspects des pays qu'elle traversait. Les infrastructures, le mode de vie des personnes. Au Mexique, par exemple, il y a de très belles et intéressantes lignes sur, par exemple, l'art du folklore. Elle parle des vêtements chamarrés des femmes aussi, ce qui est intéressant aussi, comme regard de, sans réduire. Alors, grande question, est-ce qu'on peut parler de voyage au féminin? Parce que c'est une femme qu'elle regarde les tenues chamarrées des femmes mexicaines. Mais peut-être prendre cette expression plutôt dans le sens de risque spécifique pour les femmes qui voyagent. Et même dans la deuxième moitié du XXe siècle d'ailleurs. Parce que certes, elle est reconnue grâce à cette formidable série d'articles « 5 semaines à Moscou » qui est parue dans l'Europe Nouvelle et qui est parue dans le Petit Parisien, qui l'a rendue mondialement célèbre. Mais le risque n'en est pas moins présent lorsqu'elle voyage dans la deuxième moitié du XXe siècle. Un consul, par exemple, lui dit « Attention, n'allez pas au Yémen, il y a eu des problèmes politiques, etc. Vous risqueriez d'être chahuté. » Donc elle s'appuie beaucoup sur les institutions diplomatiques, militaires, qui lui donnent des renseignements, en fait.
Voyage après voyage, elle devient spécialiste. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, au moment d'annoncer une actualité, les journalistes ont besoin de quelqu'un qui peut leur expliquer. Qui appelle-t-on? Louise Weiss.
Depuis deux jours, entre l'Inde et le Pakistan, c'est pratiquement la guerre. On se bat aux frontières de l'Himalaya, on se bat pour le Cachemire. Louise Weiss, vous connaissez bien le Cachemire, pourquoi s'y bat-on?
Pour des raisons complexes. Le Cachemire est le fer de lance de la Fédération indienne, fiché dans le cœur de l'Asie centrale, en bordure de la Chine et du Tibet. C'est un paradis. Le combat d'aujourd'hui est un combat pour le paradis. On se bat dans la plaine parce qu'il s'agit de se couper l'accès à ce paradis, c'est-à-dire les passes de l'Himalaya. Ces passes ont fait que le Cachemire, très inaccessible, est resté le conservatoire de tous les fanatismes religieux. Ces fanatismes, je puis dire que je les ai vécus. Avec les hindous, en montant avec 5000 pèlerins à 5000 mètres d'altitude pour adorer les attributs de Shiva en glace. Et j'ai également vécu le fanatisme musulman où, au cours de la cérémonie de la tragédie de Karbala, on les voyait se battre eux-mêmes, se flageller avec des knouts terminés par des lames de rasoir. Ce fanatisme explique le caractère des combats actuels, de ces combats pour le paradis.
Le journal de 20h en 1965, au moment d'évoquer ce qui se passe au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, fait appel à Louise Weiss. On trouve ce procédé rhétorique « je l'ai vécu, ça je l'ai vu ». Louise Weiss veut aussi être vue, parce que c'est aussi cela qui motive ses voyages. C'est être présente là où il se passe quelque chose pour qu'on dise « Ah mais regardez, elle est là ».
Exactement. Alors, en guise d'exemple, une exposition au Palais du Luxembourg en 1985 dit que Louise Weiss, je cite, est maintenant un journaliste de réputation internationale. Louise Weiss a une dimension européenne, c'est un expert écouté. Alors évidemment, c'est au masculin, la loi sur la féminisation des fonctions, des métiers, des professions n'existait pas, mais elle est dans une demande de reconnaissance. Et elle l'a cherché toute sa vie, en fait. Une reconnaissance aussi du père, qui a refusé qu'elle fasse, sans faire de psychanalyse évidemment, mais qui a refusé qu'elle fasse des études. Elle a demandé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Jean Monnet s'il voulait qu'elle tourne un reportage sur la construction européenne. Et il a d'abord hésité à plusieurs reprises, et puis finalement, il ne lui a pas répondu. Donc elle est restée un peu sur sa faim. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a répondu non quand tu lui as proposé de monter dans un avion le 19 juin 1940 pour aller à Londres après l'appel du général de Gaulle? C'est une hypothèse, mais en histoire, nous savons que les causes sont toujours plurielles. Donc voilà, elle est en demande constante de reconnaissance.
Mais Evelyne Vinclair, avec tout ce qu'elle produit, que ce soit ses articles, ses conférences et ses documentaires, il y a aussi un message qui est envoyé. Alors, 1921, elle se trouve en Russie. La Russie soviétique. Elle n'est pas du tout communiste, Louise Weiss. Mais est-ce qu'il y a de la politique dans ses voyages?
Alors, on peut se poser la question de savoir si ces voyages ont participé d'une politisation en fait, et s'ils ont eux-mêmes été un outil dévolu à la faire réfléchir à ses propres représentations. Nous avions dit tout à l'heure qu'elle est originaire d'une famille de la grande bourgeoisie, mais elle, ses voyages la questionnent et la font s'interroger sur ses propres représentations et ses stéréotypes. La France, il faut se souvenir que à l'époque où Louise Weiss est allée en Russie, la France, au plan social et sociétal, abhorrait le communisme. Les effectifs du Parti communiste, les adhésions, ont diminué de moitié entre 1920 et 1923. Donc c'est un signe très fort. Néanmoins, elle parle d'un idéal au retour, lorsqu'elle revient en France, elle parle d'un idéal magnifique qu'il a laissé sur sa faim, et d'autres la qualifient d'aristocrate de gauche. Alors c'est à prendre évidemment avec des pincettes, mais elle n'a jamais été, elle n'est pas, et elle ne sera jamais communiste. Mais il y a une forme d'empathie, y compris vis-à-vis du quidam qu'elle rencontre, des femmes. Elle parle avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'humanité, des rencontres qu'elle fait, même de manière extrêmement spontanée, puisqu'on disait tout à l'heure que c'est une époque où il n'y a pas de médiation et qu'on peut très facilement rencontrer la population dans la rue, ce qui n'est pas le cas des voyages de la deuxième moitié du XXe siècle, parce qu'elle utilise précisément, vous le disiez, la caméra, l'appareil photographique, donc un média, et elle a une plus grande distanciation finalement avec la population rencontrée. On peut aussi s'interroger sur la question de la véracité, puisque quand elle est à Alep en Syrie, par exemple, elle veut filmer ou prendre en photographie une jeune femme typique. Et elle trouve une chrétienne, je cite, et elle envoie un de ses assistants filer au marché du coin pour acheter une paire de babouches. Lorsque le film est montré à Paris, évidemment le Quai d'Orsay la tense quelque peu en disant « Non, mais ça, ce n'est pas possible de diffuser parce que les Syriennes portent des chaussures. » Donc là, on a aussi, c'est quoi le statut du document finalement? Quelle est la part, ma foi, du moi dans cette histoire et d'une espèce de glorification du moi? Alors que il me semble que dans les voyages de jeunesse, il y a une plus grande sincérité dans son rapport à l'altérité, y compris la plus radicale, y compris celle qui va à l'encontre de ses représentations, de son éducation, des stéréotypes qu'elle a pu intérioriser.
Et puis, est-ce que ça a fait évoluer son féminisme, tous ces voyages?
Alors ça, c'est très intéressant également. On a souvent l'idée que le féminisme de Louise Weiss débute dans les années 30 parce qu'elle a été déçue par l'absence d'aboutissement de son projet de construction d'une paix européenne, notamment avec Aristide Briand, la SDN, etc. Et que, ma foi, elle s'est raccrochée à ce wagon-là du féminisme en créant La Femme Nouvelle, qui est d'ailleurs le titre de l'un des livres d'Alexandra Kollontai. On peut se demander si ça n'a pas un lien ici. Le féminisme a été certes transformé, mais je me pose la question de son rapport à un féminisme européen, à un autre féminisme, un autre type de féminisme, avec toujours la prégnance de ce regard d'européenne qui aurait une mission civilisatrice finalement, y compris dans ces reportages dont vous parliez, qui parfois ont un aspect un peu touristique. On sent la journaliste, la grande reporter, beaucoup plus quand on lit 5 semaines à Moscou que lorsqu'on voit certains reportages de ses voyages de la seconde moitié du XXe siècle.
Voilà, avoir raison avec Louise Weiss, avoir raison ou pas raison, mais en tout cas c'est une pensée inscrite dans son siècle, un voyage aussi. Merci vivement Evine Vinclair. Louise Weiss, une journaliste voyageuse au cœur de la construction européenne, et je me permets de conseiller aussi Avoir raison avec Alexandra Kollontai de My One Gives You, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Merci vivement à vous. Prochain épisode, Louise Weiss, l'Europe pour la paix. Avoir raison avec Louise Weiss, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Sidonie Lebeau. Avoir raison avec Louise Weiss, à retrouver en ligne sur le site internet franceculture.fr et sur l'appli Radio France.